session de théologie, l'Église comme sacrement de salut par le Père Philippe à Rimont le 28 octobre 1995, quatrième conférence.
Session sur l'Église. J'ai reçu tout à l'heure un coup de téléphone de Mgr Brincard qui revenait de Rome et qui m'a dit qu'hier il y avait une très grande fête à Rome. On fêtait les 50, l'anniversaire des 50 ans du sacerdoce du pape et que le pape avait voulu que ce soit une grande fête. Honorer le sacerdoce. Alors je disais tout à l'heure que cela a été diffusé à travers toutes les radios du monde. Seule la France a refusé. Alors, évidemment, ce n'est pas très en l'honneur de la France. Je n'ai pas de détails, il y a peut-être des détails qui expliquent pourquoi ça ne s'est pas fait. Mais une panne. Le démon qui a coupé un fil. Et maintenant c'est sans fil, alors le démon arrive à faire d'autres choses. Mais priez pour le Saint-Père, parce que c'était vraiment pour lui comme une très grande fête qu'il voulait partager avec tous ceux qui étaient là. Il y avait 7000 personnes invitées spécialement pour ça, à Rome. Alors, deux petites questions, puis je continue. Vous parlez de comparaison. Lorsque saint Paul parle du corps mystique, parle époux-épouse, mais peut-on parler aussi d'analogie. Toute analogie est une comparaison. Toute comparaison n'est pas une analogie. Je prends un terme exprès, plus vaste. Mais si on veut, on peut préciser. Quelle est l'analogie métaphorique, l'analogie de similitude ou l'analogie propre pour le vivant, le choix libre et le temple. Et, oui, pour le corps mystique, le choix libre et le temple. C'est net que c'est une analogie per similitudinem. Je ne veux pas entrer trop dans cette distinction, parce que ce n'est pas le but direct de la session. Et c'est un langage de précision de Thomas d'Aquin, qui n'est pas bête comme langage, hein, qui est assez précis, intéressant. L'analogie propre, c'est du reste pour une raison pour laquelle, de fait, tout ça n'apparaît pas dans la somme théologique. Et qu'il n'y a pas de traité de théologie scientifique sur l'Église. Ce sont des comparaisons qui se prennent à partir des propriétés. Donc c'est per similitudinem. C'est la similitude. Il y a une similitude analogue. L'analogie propre porte sur la raison essentielle. Et l'analogie métaphorique porte sur l'effet. Si on fréquente un peu Thomas d'Aquin, on voit assez vite ça. Mais souvent, les traductions ne font aucune attention à ça. Parce que les traducteurs n'ont pas compris. Et pourtant, ce sont de bons dominicains. Mais ils n'ont pas compris. Alors que pour saint Thomas, c'est très net. Il y a l'analogie par similitude. C'est les propriétés. Alors, voyez bien, c'est les propriétés. Je dis, c'est pas l'être, c'est les propriétés. Bon, alors, seconde question. Je ne m'attarde pas plus. Je m'excuse pour ceux qui... Mais ils pourraient demander demain, si ça les intéresse. Comme ça, ce sera une petite matière à demander à leur... Pour aiguiser un peu l'intelligence de ceux qui sont avec vous, vous leur poserez la question. Quel est l'ordre entre notre sainteté personnelle et la recherche de l'unité de l'Église? Oui, c'est la question qu'on me posait il y a un instant. Est-ce que dans notre vie apostolique, nous sommes des apôtres de l'unité et comment ? L'unité, pour nous, est une conséquence de notre lien avec Jésus. Notre sainteté, c'est la qualité de notre lien avec Jésus. Alors, notre sainteté, en termes de théologie scientifique, c'est notre participation à la plénitude de grâce du Christ. Plénitude de grâce sanctifiante. Et notre sainteté provient de notre grâce sanctifiante qui nous lie à la grâce du Christ, puisque nous avons une grâce chrétienne. Et victorieuse de toutes les tendances naturelles ou instinctives qui sont en nous, et qui pourrait nous faire dévier. Mais, par exemple, on est fatigué. Oh, alors, je ne vais pas faire d'effort. Je vais me reposer. Si on se reposait chaque fois qu'on est fatigué, c'est pas... Et comment se passerait la journée ? La grâce sanctifiante nous dit, cherchons d'accomplir la volonté de Dieu, la volonté du Père, accomplir la volonté du Père, le Notre Père. Alors on sait bien qu'il y a une heure de repos, autant que possible, on tient bon. Alors quand l'heure du repos arrive, ô Beatido, c'est la béatitude pour notre pauvre corps, pas pour notre esprit, pas pour notre santé, mais pour notre pauvre corps qui a besoin de dormir. Très bien, reposez-vous. Et si vous êtes fatigué, on vous dira si vous dépendez d'un bon supérieur, puisque la qualité du supérieur dépend justement dans la mesure où il avance plus ou moins le repos bien dû. N'est-ce pas ? C'est toujours comme ça, vous pouvez vérifier la bonté d'un supérieur. Ou au contraire, c'est sa dureté. Non, quand même, ne soyez pas paresseux. C'est pas ce qu'on vous dit habituellement. Quand il vous dit, couchez-vous une heure plus tôt. Et vous dites, merci. Ça, c'est. Alors, la sainteté, ça consiste dans la victoire de l'amour divin, de notre lien de fils bien-aimé avec le Père. Et que ce lien prenne tout, qu'il n'y ait plus aucune brisure. Le péché brise, une brisure radicale, péché mortel, une égratignure, péché véniel, un ralentissement, une fatigue. Alors que la sainteté fait qu'il n'y a jamais de ralentissement, qu'il y a toujours l'ardeur et qu'il y a la ferveur, tout le temps. Parce que c'est trop bête de mourir avec des provisions, avec un frigidaire rempli. Pour les héritiers, c'est pas la peine. Il vaut mieux mourir en ayant été jusqu'au bout de nos réserves. ces ailes sont particulières pour chacun d'entre nous. Pour quelqu'un qui a très bonne santé, très bien, il y va. Pour quelqu'un qui a une santé fragile, il fait attention, par prudence. Mais toujours, il donne toutes ses réserves. Alors, voyez, je dirais que l'unité est la conséquence. Qu'est-ce qui permet de voir une unité plus ou moins grande, c'est toujours ça. Vous voyez, je me souviens, je prends cet exemple parce que ça vous fera peut-être mieux comprendre. C'est à Fribourg. Ce fils, c'est Huguenote, qui avait mon âge, qui était très gentil, on avait très bon contact ensemble. Une fois, devant une trentaine de personnes, il dit, mon père, comment vous me regardez? Est-ce que vous me regardez comme un hérétique, comme un schismatique? Alors j'ai dit, vous êtes né dans l'église protestante. Au fond, vous n'avez jamais choisi. Alors j'ai vu qu'il rougissait. J'ai dit, c'est vrai. Alors, voyez, quand je vous vois, j'espère que vous allez aimer toujours plus le Christ. C'est la seule chose que je souhaite. Et moi, je souhaite aussi aimer toujours plus le Christ. Et si nous aimons toujours plus le Christ, nous nous rencontrerons et nous serons dans l'unité. C'est sûr. Si tout le monde aimait le Christ parfaitement, mais il y aurait une unité parfaite. Les divisions proviennent toujours d'un manque d'amour. On le sait bien. Et nous-mêmes, nous ralentissons l'unité quand nous sommes fatigués, quand nous n'avons plus la même ferveur. Si on a une grande ferveur, ça entraîne et l'unité se fait. L'unité d'une communauté dépend de sa ferveur. Si elle n'est pas fervente, elle glisse dès qu'elle peut glisser. Donc elle tombe au ralenti. Elle chemine tout doucement, en regardant à droite et à gauche, et en attrapant toutes les moustiques possibles, les piqûres de moustiques possibles. Parce qu'il n'y a pas assez de force, il n'y a pas assez d'énergie, pas assez de rejet du poison. C'est comme ça pour un vivant, un grand vivant. Il est un dans la mesure justement où tout est assimilé. Et qui ne se laisse pas piquer. Il a un pouvoir de dire au moustique, va-t'en. Alors il lui dit, va-t'en, puis le moustique s'en va. C'est pas toujours comme ça, parce qu'il y a des moustiques qui sont conduits par le démon. Alors ceux-là, ils donnent des sales maladies. Mais de bons moustiques, qui sont conduits par les anges, ils ne demandent qu'une seule chose, c'est d'écouter qu'on leur dit, va-t'en, laisse-moi tranquille, je dois travailler. Saint Augustin qui fait cette distinction-là, vous voyez. Et il y a un fond de vérité. Hein. Mais il ne faut pas l'appliquer trop. Il faut pas dire parce qu'il y a une guêpe qui tourne autour de vous. Oh, elle est satanique. Non, elle cherche son bifteck, que voulez-vous. Alors, c'est très bien. Alors, maintenant, continuons. Regardez ce que nous avons commencé tout à l'heure, c'est-à-dire ce texte que j'aime beaucoup et qui est très beau. Et vous voyez, essayez de comprendre ça, je donne ça très rapidement, mais je crois que ça nous aide à comprendre. Dans l'Ancien Testament, et on entendait tout à l'heure la lecture du réfectoire, dans l'Ancien Testament, il y a des tas de préfigurations d'église, des tas. Plus ou moins belle, plus ou moins belle état. Vous voyez, c'est préfiguration d'église. L'arche de Noé, préfiguration d'église. Ça va même très loin, l'arche de Noé, parce qu'on dit qu'en dehors de tous ceux qui étaient dans l'arche, ils sont engloutis par les eaux. Mais évidemment, c'est une préfiguration lointaine, c'est très difficile. Mais c'est un des arguments, comprenez. En dehors de l'église, pas de salut. En dehors de l'arche de Noé, pas de salut. Mais est-ce que c'est juste comme argument? Analogie persimée du même, donc c'est pas juste. C'est très bien, c'est rhétorique. Mais c'est pas de la théologie. C'est peut-être de la dévotion. Parce que la dévotion peut se nourrir de ça. Ça encourage. Alors, des tas de... Je ne les ai pas toutes rassemblées, mais ce serait très intéressant. C'est facile à faire. Rassembler dans l'Ancien Testament tout. Et avant l'Ancien Testament, s'il y a aussi quelques grandes préfigures. L'Arche de Noé. Puisque l'Arche de Noé préfigure le Christ, préfigure l'Église. C'est le renouveau, donc on peut le mettre. Avant l'Ancien Testament, l'Arche de Noé. Noé étant un personnage extrêmement important. Je crois que tout se ramène à ces trois. Ces trois expériences capitales de l'unité. Et ces trois se ramènent à la dernière, chapitre 15. Mais comme c'est curieux, cette multitude se ramène à trois. Et ces trois se ramènent à un. Ce qui donne au chapitre 15, je crois que j'ai le droit de faire ça, qui donne à ce chapitre 15, sur l'Église, une force étonnante. Et c'est ça qui me charme intellectuellement, c'est que ce chapitre 15, son originalité, c'est la fécondité. Ça, c'est net. C'est la fécondité et le regard vers le Père, le vigneron. C'est important de voir que toute la révélation sur l'unité de l'Église se termine au vigneron. C'est beau quand même. Fécondité, le Père. Alors, le Père, c'est la paternité, c'est la fécondité. Comme c'est curieux, hein. Tout le mystère de l'Église, c'est pour la fécondité. Ah, vous voyez le lien avec la famille. C'est pour ça que l'analogie avec la famille est beaucoup plus forte que celle du peuple. Parce que celle-là touche le point du chapitre 15 de Saint Jean. Et je crois que c'est vraiment ça qui est l'aspect tout à fait propre dans la vision de sagesse de Dieu. C'est ce qu'il y a d'ultime. Vous voyez, Lumen Gentium, mais surtout le corps mystique, je comprends. Je parle pas beaucoup du chapitre 15. Aujourd'hui, je suis sûr que le pape mettrait chapitre 15. Oui, Lumen Orientale. La fécondité. L'Église, c'est le lieu de la fécondité divine. Et c'est, ça explique du reste, voyez, les luttes sataniques, parce que le démon a horreur de l'Église. Alors, ce serait aussi très intéressant à étudier avec l'Apocalypse, de voir quelles sont les luttes démoniaques de l'extérieur de l'Église. Et à l'extérieur, il n'est pas dans l'Église. Et il est furieux de ne pas être dans l'Église. Et il essaie par tous les moyens de l'attaquer, de la briser, de la diviser. Et les luttes extrêmes du démon, c'est la fécondité. Et ça, c'est dit dans l'Apocalypse. C'est pas dit comme ça, hein. Non. C'est dit à la manière de l'Apocalypse. C'est-à-dire que le dragon serpent, le serpent dragon, poursuit la femme dans le désert, où elle a un lieu de refuge. Et il crache derrière la femme de l'eau, un fleuve d'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisque l'eau symbolise toujours la fécondité. Symbolise, puisque s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de fécondité. C'est nécessaire à la fécondité, condition sine qua non. Et le démon veut faire croire que c'est lui qui est l'auteur de la fécondité. Alors qu'il sait très bien que c'est Dieu. Alors c'est sûr, il y a les deux fécondités. Il y a la fécondité selon la chair et le sang, la famille. fécondité divine, l'Église. Vous comprenez que si on en détruit une, on détruira l'autre. Elles se tiennent. Elles se tiennent, ça ne veut pas dire qu'il y a une continuité entre les deux, mais il y a une analogie par similitude. Vous voyez, c'est vraiment ce point de vue-là qui me semble être le point de vue ultime au point de vue révélation. Il y a très longtemps que j'y pense à ça, parce que c'est pas du tout arrivé comme ça pour ce soir. Ça me semble quelque chose de très important, lire et relire ce chapitre 15 en Saint Jean, pour avoir cette vision ultime de l'Église et voir comment toute la révélation s'achève là. La pointe de la révélation. C'est toujours important de voir l'objectif dernier, ultime de la révélation. Sur quoi la révélation ? En dernier lieu. Alors, la question se pose. Qu'est-ce que c'est qu'exactement la fécondité de l'Église ? La fécondité selon la chair et le sang. On voit bien le fruit, l'enfant. Mais quelle est la fécondité de l'Église ? Ah. Elle est exprimée très nettement par le baptême. Et encore l'oraison d'aujourd'hui, c'était encore ça, la dernière oraison, la post-communion. L'Église se réjouit d'avoir de nouveaux enfants. C'est la fécondité de l'Église et le baptême qui fait que l'enfant passe de l'état nature à l'état surnature. Il devient fils de Dieu. Mais il devient fils de Dieu, comment ? Par la communication de la grâce et de la grâce sanctifiante. Alors ça, c'est très important, vous voyez. Parce que on va voir le rapprochement entre le baptême et l'Église. C'est l'Église qui donne le baptême. Oui. Mais en même temps, c'est tous les hommes qui peuvent le donner. N'importe qui peut donner le baptême. Mais avec les intentions d'Église. Quelqu'un qui n'a pas la foi peut donner le baptême. Un baptême valide. C'est l'intention de faire ce que l'Église veut. J'ai connu comme ça. C'était une psychanalyste. Et elle avait une cliente qui allait avoir un enfant. Et je la connaissais. Alors ça faisait on était à trois bavardés là-dessus. Pas en même temps. Alors elle ne voulait absolument pas que l'enfant soit baptisé. Moi je priais le Seigneur pour qu'il soit baptisé. Mais elle ne voulait absolument pas. Elle dit non, c'est non, elle est trop malade, faut pas que l'enfant soit baptisé. Mais voilà que il y a eu des difficultés au moment de la naissance. Que l'enfant va y mourir. Alors, cette brave psychanalyste l'a baptisée. J'ai trouvé ça merveilleux. La manière dont Dieu, vous voyez, fait que. Voilà. Parce qu'il a failli mourir, il n'est pas mort, de fait. Mais si on veut faire ce que veut faire l'Église, c'est tout. On donne le baptême. Ça, c'est la première fécondité de l'Église. Communiquer la grâce. Ça, c'est sûr. L'Église est le lieu de la communication de la grâce, de la communication de la vie divine. Fécondité. Alors, fécondité, la fécondité du baptême, vous comprenez, elle est donnée par le baptême pour les petits-enfants. Et elle est communiquée pour les adultes par la foi. C'est la foi qui justifie. Quelqu'un qui n'a pas été baptisé et qui a 18 ans, 20 ans, demande le baptême. Il a la grâce sanctifiante avant de recevoir le baptême. pour l'évangile à la foi. Et c'est la foi qui justifie. Alors, voyez, coopérer à la conversion de quelqu'un, je dis bien coopérer à la conversion de quelqu'un, en étant témoin, témoin par sa vie, en l'enseignant, en lui montrant ce qu'est l'évangile, on est source de fécondité, source de la communication de la grâce et de la foi. Il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire donner le désir du baptême. Et donner le désir du baptême, c'est par la foi qu'on donne le désir du baptême. Et par le désir du baptême, on communique la vie. Et donc, tout chrétien témoin à l'égard des autres chrétiens peut être source de fécondité. Puis l'autre point de vue, qui est peut-être encore plus net dans ce passage de Saint Jean, c'est le point de vue de la charité fraternelle. Comment l'Église engendre l'Église par le baptême et la charité fraternelle. Ce sont les deux extrêmes, voyez, de notre vie. C'est sûr, la contemplation et notre lien avec le Père est ultime. Mais ce lien avec le Père doit rejaillir dans la charité fraternelle et implique ce rayonnement nécessaire dans la charité fraternelle. Quel est celui qui prétend aimer Dieu alors qu'il a en haine son prochain? C'est Saint Jean qui nous dit ça. Donc celui qui prétend aimer Dieu doit aimer son prochain, nécessairement. Et donc, quand on nous parle de la fécondité de l'Église, je crois qu'il faut regarder la charité fraternelle. Vous allez tout de suite comprendre. Quand il s'agit de l'amour à l'égard de Dieu, dans la contemplation, on est passif. On coopère en recevant et en répondant. Et c'est ce qu'on fait quand on dit à Dieu qu'on l'aime de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces. C'est l'amour qu'on a reçu du Christ qui féconde notre âme et nous permet de dire cela de tout notre cœur. Et donc, ce qu'il y a de fondamental dans la charité à l'égard de Dieu, c'est nécessairement répondre, ayant reçu de Dieu son amour, on répond à l'amour de Dieu. Dans la charité fraternelle, on a les initiatives de la charité fraternelle. C'est sûr qu'on aime son frère parce que Dieu l'aime, c'est sûr. Donc, l'amour à l'égard de Dieu est premier. Mais ce qui caractérise la charité fraternelle, c'est qu'on en a les initiatives. Et ceci est très net. Quand vous regardez le début de l'Église, en Marie, quand il s'agit d'être mère de Dieu, Marie dit son fiat, elle accepte. Qu'il me soit fait selon ta parole. Donc c'est dans la passivité. Une passivité vivante. Une passivité qui répond. Mais c'est quand même pas elle qui a pris l'initiative. C'est pas nous qui prenons les initiatives de l'oraison. Jamais. C'est Dieu qui les prend pour nous. C'est le Christ qui les prend pour nous. Quand il s'agit de la charité fraternelle, l'ange lui annonce qu'Élisabeth attend un enfant. Mais l'ange ne dit pas à Marie, tu dois y aller. ton lien maintenant avec Dieu, par ta maternité divine, tu dois aller voir la vieille cousine Élisabeth. Avant, tu avais le droit de ne pas t'en occuper, mais maintenant, tu n'as plus le droit. Tu dois t'en occuper. Là, je ne dis pas ça du tout. Il annonce pour laisser toute l'initiative à Marie. Et Marie prend cette initiative. Je crois que ce qui caractérise justement cette source de fécondité, bien, si vous voulez, pour expliciter cette source de fécondité de l'Église, c'est le mystère de la charité fraternelle. L'agapé, au sens très fort, cet amour d'amitié au plan surnaturel, qu'on aime le prochain en prenant ses initiatives. Quand Jésus veut nous montrer qui est notre prochain, il nous montre l'initiative du Samaritain. C'est toujours ça. Dieu veut que ça jaillisse de nous, donc qu'on soit source. Et je crois que c'est vraiment là où l'on saisit la fécondité. C'est dans la mesure où on aime ses frères qu'on devient un apôtre. C'est dans la mesure où l'on aime ses frères qu'on ne peut pas supporter certaines misères et qu'on fait tout pour les supprimer. La miséricorde, c'est bien ça. La vie, tu vois, les initiatives de l'Église dans tous ces gestes de miséricorde provenant de la charité fraternelle. Donc, vous voyez, vous avez bien là le mystère de la fécondité de l'Église, par où l'Église agit comme le Christ agit. Parce que la fécondité propre de toute l'Église, c'est le Christ. Et c'est le mystère de la croix. Et c'est l'offrande que Jésus réalise à la croix. De tout lui-même. C'est à travers le sacrifice de la croix qui implique l'adoration, l'offrande totale de tout Jésus, de tout lui-même. C'est bien cela qui fait que Jésus devient source de vie à la croix. Source de vie pour les pécheurs, pour tous ceux qui veulent recevoir sa grâce. Et il devient source de vie, donc cette fécondité nouvelle, à travers le mystère de la blessure de son cœur. Et l'Église naît là, et l'Église devient elle-même unie à la croix du Christ, source de vie, d'une façon maternelle, à la suite de Marie. Marie devient source de vie à la croix. C'est un acte de charité fraternelle que Jésus demande à Marie, d'une manière très nette. Vous allez me dire là, Marie n'a plus une initiative. Oui, c'est très vrai. C'est Jésus, ce qui montre bien que dans la charité fraternelle, de temps en temps, c'est un ordre impératif, et on obéit. Et de temps en temps, on prend l'initiative, il y a les deux. À la croix, Marie obéit. Et c'est au moment où elle est intimement unie à Jésus, dans l'offrande de toute elle-même. Offrir Jésus, c'est plus pour Marie que de s'offrir elle-même. Accepter la mort de Jésus et l'offrande de toute sa vie, c'est quelque chose de plus grand pour Marie que d'accepter la mort. C'est à travers l'holocauste profond que Marie vit à la croix, qu'elle devient source de vie, la fécondité de Marie à la croix, à l'égard de Jean, à travers Jean, toute l'Église, tous ceux qui accepteront d'être fidèles jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Il y aura une fécondité à ce moment-là, dans la charité fraternelle et dans la vie apostolique. Je crois que c'est cela qu'on doit comprendre pour bien saisir cette dernière analogie, cette dernière comparaison du mystère de l'Église par rapport à Jésus, qui est la vigne et l'Église, les rameaux, et nous sommes les rameaux. Et ce qui est merveilleux dans cette comparaison, c'est qu'on comprend ce que dit Jésus. Vous ferez des choses plus grandes que moi. Parce que quand vous voyez la vigne, les fruits sont sur les rameaux et non pas sur le tronc. Mais Jésus est la vigne, c'est-à-dire qu'il est toute l'Église. Et ce mystère de fécondité le montre bien. C'est lui la source. Et se sert de nous pour que devenions source par lui, avec lui et en lui. C'est vrai, il est bien le tronc, mais il est toute la vigne. Et les fruits visibles, ce sont les disciples du Christ qui en sont la source, puisqu'ils sont les rameaux. Alors vous pourriez pousser cette analogie, parce qu'on peut la pousser. Il y a des vignes qui ont des apparences très différentes. Quand vous allez en Palestine, Jésus a vu des vignes, sans doute que ça n'a pas beaucoup bougé. La nature ne bouge pas tellement, surtout quand elle est vigne. Et donc les vignes qu'on voit en Palestine devaient être à peu près les mêmes du temps du Christ, je crois. Tandis que quand vous voyez les vignes de Charente, quand vous voyez les vignes de Bordeaux, quand vous voyez les vignes de Bourgogne, c'est d'une richesse extraordinaire. Les vignes en Palestine, elles sont très rampantes. Et on voit toujours le tronc. Tandis que les vignes de Charente, quand c'est... on ne voit jamais plus le tronc. On ne voit jamais plus le sel. C'est la vigne qui prend tout. Moi, ça me fait penser beaucoup au mystère de l'Église. Vous voyez, c'est sûr, il ne faut pas exagérer. Jésus a parlé de la vigne, mais il sait très bien que la vigne a des apparences extrêmement variées. C'est pour montrer, je crois, la diversité dans l'Église. Et c'est là où on devrait tout de suite montrer les sept Églises de l'Apocalypse. Pour que nous comprenions que, de fait, l'Église du Christ, de la Trinité, du Père, a des réalisations extrêmement diverses. Quelquefois, Jésus aime de se cacher derrière l'Église, les hommes d'Église, les saints. Il se cache derrière. Et c'est le visage du Christ à travers ses saints. Quelquefois, le Christ agit, lui, bien plus directement. Peut-être parce que qu'il n'y a pas assez de saints. Alors il ne peut pas faire de ses membres, de ses rameaux, ce qu'il veut. Je crois que ça donne à notre regard sur l'Église ce que Dieu veut que nous ayons. Cette très grande souplesse du mystère de l'Église. L'Église ne se réalise pas du tout de la même manière dans tel ou tel pays, en Afrique, en France, en Espagne, aux Philippines, aux États-Unis, et ainsi de suite. C'est extraordinaire, ça. De voir cette extraordinaire diversité. Pourquoi le rapport entre la vigne, le tronc et les rameaux qui portent du fruit? C'est là où on voit le mieux. Ça fait partie encore du caractère très particulier de cette comparaison prise par saint Jean, prise par Jésus lui-même. Il est la vigne et nous sommes les rameaux. Et il y a la taille. Et la taille pour porter beaucoup de fruits. Et les fruits sont là manifestés d'une manière très particulière. Charité fraternelle. C'est très important, ça, de voir que, de fait, le rayonnement de l'Église, c'est la charité fraternelle. En premier lieu, Jésus nous le dit. Et l'exemple que prend Jésus pour nous faire comprendre ce que c'est que l'Église, c'est sûr. C'est le rayonnement premier, la charité fraternelle. C'est ce qu'il y a de plus difficile. C'est ce qu'il y a d'ultime. Je dis ultime au point de vue des effets, au point de vue du rayonnement. Pas ce qu'il y a d'ultime au point de vue finalité. Il faut bien faire attention à ça. Ce qu'il y a de plus parfait, c'est pas la charité fraternelle, c'est notre amour pour Dieu. Mais la charité fraternelle est le rayonnement dernier et souvent le plus difficile. Donc, il est ultime dans ce point de vue-là, comme rayonnement. Jésus le dit, quand plusieurs sont unis et pris, sont unis à cause de moi, ils témoignent de ma présence. Jésus est là. Et donc, on rend présent Jésus, on rend visible Jésus au monde. Et là, on touche bien le mystère de l'Église, dans le sens très très fort, grâce à ce rayonnement. Et ça, on le voit très bien, ça. Prenez l'exemple de Mère Teresa. Parce que là, c'est vraiment la charité fraternelle, rayonnante et extrême. Le rayonnement de Mère Thérèse, non, mon Dieu, le rayonnement du pape. Sûrement deux rayonnements très parallèles et très différents. Mais bon, c'est des témoignages dans notre monde d'aujourd'hui qui sont très extraordinaires. Le rayonnement du Mère Teresa, c'est énorme, c'est merveilleux. Et c'est la charité fraternelle. C'est vrai, c'est ça qui domine chez elle. Cette charité fraternelle qui se traduit dans la miséricorde et qui fait que elle ne peut pas ne pas souffrir quand elle voit souffrir. C'est elle qui porte ça. Et le Saint-Père, on sait très bien, comme il est blessé quand il voit des erreurs doctrinales, quand il a déclaré la crise de la vérité, quand il a écrit l'encyclique Splendor Veritatis, on voit combien tout ça le blesse, le meurtrit, et de voir combien les hommes, parce que Mère Teresa, tout le monde l'aime, le pape, tout le monde ne l'aime pas. À cause de la doctrine. C'est toujours ça. L'exigence de la doctrine fait que le le Saint-Père dit « il ferait mieux de se taire ». Non, il faut qu'il témoigne. Et un rayonnement tout à fait différent. Vous voyez, comme visage de l'Église, le rayonnement du pape, le rayonnement de Mère Teresa. Alors, on est en sympathie. Autant que possible, vous êtes en sympathie avec les deux, vous êtes en sympathie avec tous les saints. Mais on comprend mieux celui de Mère Teresa pour celui qui est actif. On comprend mieux celui du Saint-Père, celui qui est plus contemplatif et plus caché. Et qui va plus loin dans son exigence. C'est bien la fécondité des deux. Une fécondité merveilleuse. Qui témoigne, qui manifeste la présence de Jésus dans l'Église. Vous voyez donc, puisque c'est ça que je voudrais que vous voyez bien, vous voyez donc que l'unité de l'Église est le fruit de la charité fraternelle et le fruit de l'adoration et de la contemplation du mystère de la croix en chacun d'entre nous et dans l'Église. L'Église, c'est nous. C'est pas quelqu'un à côté de nous, c'est nous. Mais c'est nous dans le Christ. Et dans la mesure où le Christ est en nous et que nous sommes dans le Christ, nous sommes l'Église. Et cela, vous le voyez, selon ces quatre analogies diverses. Toutes montrent cela. Ce mystère de la présence de Jésus à travers ceux qu'il a choisis, qu'il aime. Alors là, on voit bien. Et nous pouvons alors refaire la démarche inverse. Une fois qu'on a saisi cela, je reviens. C'est tout ce qu'il faut faire. On revient. Dans la lumière du chapitre 15, nous pouvons lire ce que nous avons vu précédemment dans ces trois comparaisons de saint Paul. Parce qu'alors on voit beaucoup mieux comment chacune de ces comparaisons met en lumière un aspect particulier de la grâce, de l'unité. C'est sûr qu'on voit cette exigence si forte de l'unité du corps mystique, de l'unité dans la charité fraternelle, le choix libre. C'est une des choses qui me semble tellement forte que le Saint-Père saisit avec beaucoup, beaucoup d'acuité. Je crois que toute l'encyclique Splendor Veritatis, qui touche très fort le pape, et quand il dit crise de la vérité, c'est quelque chose de très, très fort. Cette encyclique, elle est toute commandée par ce point de vue de la liberté de l'acte d'offrande qui se réalise dans le cœur de Jésus, dans la volonté de Jésus à la croix. Et c'est très beau, parce que le choix du Christ sur nous appelle notre choix. Alors quel est ce choix du Christ sur nous? Nous sommes enfantés à la vie divine, à la croix. Et Jésus est source de vie pour nous, de lumière et d'amour, à la croix. Or, au-delà de toutes les choses visibles, douloureuses, du mystère de la croix, il y a le Saint des Saints, il y a l'âme du Christ, il y a le cœur de Jésus qui offre librement sa vie pour glorifier le Père et nous sauver. Cette offrande libre que Jésus réalise pour accepter de mourir, je crois que c'est l'acte de liberté le plus parfait qui ait existé au monde, sur cette terre. Et c'est dans la lumière de cet acte de liberté que le Saint-Père voit ce que doit être une théologie morale et toutes les erreurs qu'il peut y avoir. Alors ça, c'est très grand. Je dirais que là, il nous donne une lumière étonnante et très forte. Vous voyez, c'est bien dans la lumière du chapitre 15 que j'essaie de dire ça. Jésus est source de vie et source de vie de l'Église. L'Église vient du Christ. Elle est le fruit de la croix. En définitive, c'est ce qu'il y a de plus beau dans l'Église. C'est d'être le fruit de la croix. Et le fruit de cet acte libre de Jésus qui offre sa vie. C'est dans l'offrande même qu'il fait au Père de sa vie terrestre. C'est dans cet acte de liberté, dans l'obéissance, qu'il offre au Père sa vie pour le glorifier et nous sauver, que nous sommes nés et que l'Église est née. Et donc, la vision la plus parfaite que nous pouvons avoir de l'Église, c'est de remonter toujours à sa source. Et la source, c'est justement cet acte de liberté d'amour, dans l'amour. Cet acte d'amour libre, qui est un choix que Jésus fait pour nous montrer son amour pour le Père et son amour pour nous. Et que c'est dans le même acte. Alors ça, c'est aussi très important. C'est dans le même acte. La fécondité du Christ, c'est de faire naître, c'est cette naissance de l'Église, c'est le fruit de la croix. Et ce fruit de la croix regarde la communication qu'il nous fait de son amour. Et dans cet amour, il veut que nous soyons nous-mêmes source d'amour pour nos frères, capable de donner notre vie comme lui, avec lui et en lui, pour le salut de nos frères. Et dernière lumière sur le temple, pour montrer comment nous sommes nés dans ce mystère d'adoration. Le temple, c'est le lieu d'adoration. C'est une adoration en esprit, en vérité. À partir de là, tout le mystère de l'Église s'illumine. Puisque la seule grande lumière sur le mystère de l'Église, c'est le Christ crucifié et glorifié. Puisque c'est vraiment à la croix qu'il engendre l'Église. C'est pas dans la gloire, c'est à la croix, en offrant sa vie. Mais cet acte de liberté, d'amour,